pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Pourquoi mon téléphone n'a jamais sonné pour que quelqu'un me dise « Je viens de voir un rhum dans mon jardin, il est dans la rue, venez vite. » Tous les gens nous disaient « On a vu, c'est des rhums, on a vu, c'est des rhums. » Voilà. Pourquoi ces gens qui affirment tout ça n'appellent pas les services de police pour qu'on vienne les interpeller? On n'a aucune preuve de ces affirmations-là, puisqu'il n'y a pas eu d'interpellation derrière. Je ne vais pas accuser les gens de mauvaise foi. Je dis simplement que j'ai un doute sur la véracité de leurs propos. Voilà. Moi, je les vois vivre tous les jours. Je veux dire, ils sont quand même assez naïfs pour beaucoup de choses. Et avec leurs gros sabots, on les verrait vite arriver. Je pense pas qu'ils soient, ces Roms-là, dans une catégorie criminelle si évoluée que s'ils commettaient des actes, on n'arrive pas à les attraper. On pense sincèrement, pour en avoir attrapé certains, qu'une recrudescence de cambriolage autour du Puy-Z s'est effectuée lorsqu'on a accueilli les Roms du Puy-Z pour faire retomber la faute sur eux.
L'histoire se passe à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, en 2014, et c'est notre retour sur du vendredi. Nous sommes dans une commune qui, au lieu de faire comme les autres et de dire aux Roms de dégager Manu Militari, a eu l'idée de mettre à leur disposition un terrain, le Puy-Z, un ancien puits de mine désaffecté. Le terrain a été raccordé au réseau EDF et au canal de Provence qui alimente deux points d'eau. Une assistante sociale embauchée à plein temps, un gardien et un règlement assez strict mis en place, suivi assez scrupuleusement par les 79 personnes qui vivent là. Malgré les réticences locales, les tags anti-Roms, pétitions et autres rumeurs, le maire de Gardanne, Roger May, PCF depuis 1977, a tenu bon depuis un an et demi. En obtenant une aide de l'État et du Conseil régional, il a veillé à ce que le camp ne pèse pas sur le budget de la municipalité. Le succès de ce camp est aussi celui de Christian Huc, chef de la police municipale de Gardanne, qui, après avoir passé 23 ans à Marseille, a participé à son installation et se rend depuis tous les jours sur place. Loin d'être un flic baba, égaré, un idéaliste communiste ou une exception qui confirme la règle, l'homme est un pragmatique, bienveillant et curieux qui essaie juste de faire correctement son job. Son point de vue informé sur la vie de ces nouveaux parias, sur leur capacité d'intégration, sur leur avenir, sur leurs ressources, méritait qu'on l'écoute jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage d'Alice Jacquelin et Emmanuel Geoffroy, diffusé pour la première fois le 4 mars 2014.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça fait longtemps que vous habitez à Gardanne ?
Depuis 2002. J'y travaille depuis 2008. Puisque j'ai été policier municipal sur la ville de Marseille depuis 1985. Ça date pas d'hier. Hein. J'ai choisi la police parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. À une certaine époque, on rentrait dans la police parce qu'on y croyait. Service. J'ai essayé au maximum de me dévouer à cette profession, mais j'ai pas réussi à être en accord parfait avec ma conscience en effectuant ce travail depuis 30 ans. Voilà. Moi, je voyais les choses différemment. Je vous avouerai qu'en sortant à 20 ans des fusiliers marins, j'ai été militaire dans les fusiliers marins, j'ai effectué mon service là-bas, donc c'était un corps d'élite. J'étais mêlé au milieu de commandos marines toute la journée. J'ai hésité parce que j'ai failli m'engager. Parce que ça me correspondait totalement à cette époque-là. J'avais 20 ans, j'étais sportif, j'aimais foncer. Quand je me suis retrouvé avec un képi blanc sur la tête, un carnet de contravention dans la poche et qu'on m'a dit « tu feras que du stationnement gênant », et on se dit « mince, c'est pas du tout ce que j'espérais ». Moi, je voulais attraper du voleur. Je voulais constater des infractions routières graves, je voulais. J'étais là pour faire respecter la loi. Je suis tombé d'eau, quoi. Je m'imaginais pas que la police municipale, c'était ça. Voilà.
Nous voilà au poste de police.
Nous voilà au poste de police. que de la police municipale. Donc là, vous êtes à l'accueil.
Voilà mon bureau.
Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé au début avec les Roms ?
Alors, la première des réactions, quand on est tombé sur ces deux camps qui s'étaient installés sur Gardanne en campagne, sur un terrain privé, un terrain sur un municipal, ma première démarche a été d'aller les trouver et d'essayer de les convaincre que c'est pas ici qu'il faut rester, que il vaut mieux aller ailleurs, qu'ici ils auront rien. Enfin voilà. Bon, ils sont pas partis, bien évidemment. Et donc là, j'ai dit à Monsieur le Maire que voilà, on était devant le fait accompli. Et Monsieur le Maire donc a organisé bien sûr une réunion avec les élus responsables. Et il a été décidé donc de les accueillir sur le camp du Puy-Zède, qui est un ancien puits de mine. Alors ça, c'était en septembre dernier. Donc il y a plus d'un an maintenant. Hein. Voilà. Septembre, c'était l'arrivée de l'hiver. Donc on allait au-devant de gros problèmes. Il fallait que la situation se décante rapidement. C'est pas évident de déplacer toute une population, 80 personnes, ça représente 12 familles, qui avaient fabriqué... des cabanes faites de planches, de briques de broc, hein, et beaucoup d'entre eux vivaient sous des tentes à moitié déchirées, avec des enfants en bas âge. C'était assez compliqué. Donc il a fallu organiser un petit peu la vie du camp, il a fallu les accueillir avec le minimum, je dirais, acceptable. Les caravanes et les mobilhomes ont été prêtés par la ville de Gardanne, hein, que nous avons affectés aux familles. Ce sont des logements qui appartiennent à la ville de Gardanne. Donc si la ville de Gardanne décide de ne plus donner tel ou tel logement à une famille, ben, on le récupère. Je tiens à signaler qu'au mois de juillet, les diverses brigades territoriales du coin m'ont signalé que trois familles avaient été impliquées dans des vols de métaux aux alentours, notamment dans des sociétés. J'en ai immédiatement référé à M. Mehi, le maire de Gardanne, et sans hésitation, celui-ci a décidé de les renvoyer du camp. Donc, pour protéger l'ensemble des Roms, il fallait faire partir ceux qui n'avaient pas respecté la charte de bonne conduite qui a été signée entre la mairie de Gardanne et les Roms du camp. Ils ne sont pas partis volontiers. Moi, je leur ai donné 48 heures, hein, c'était le vendredi, j'ai dit lundi matin, je serai là pour récupérer les logements mobiles. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et le lundi matin, en arrivant sur le camp, les valises étaient posées devant, la fourgonnette était prête à partir. Deux ou trois femmes ont dû m'insulter en roumain. Voilà, ils sont partis en me regardant de travers, mais ça, c'est un détail.
Et ça n'a pas brisé le lien de confiance que vous aviez construit avec ceux qui sont restés ?
Ah, bien au contraire. Je pense qu'ils savent qu'on essaie de leur offrir une vie plus tranquille que ce qu'ils ont connu, mais ceux qui se manquent, ils doivent partir. Voilà, pour le bien de tous. Sinon, après, c'est l'anarchie. Vous avez d'autres familles qui seraient peut-être tentées de commettre des infractions, qui vont se dire, de toute façon, infraction ou pas, on nous garde. Donc après, c'est pas possible.
Et ceux qui restent, vous avez confiance en leur bonne volonté ?
Oui, j'ai confiance, bien évidemment. Sinon, je ne dormirai plus. Mais je ne peux pas me porter garant de ces personnes-là. Pour certains, ils n'ont absolument rien. Aller chercher 4 ou 5 machines à laver sur la ville d'Aix ou la ville de Marseille, les démanteler, aller vendre les métaux et recommencer ça toute la journée. Peut-être que le jour, ils seront attirés à voler pour manger, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas, moi, me porter garant de gens qui sont dans une extrême misère. Parce que quand on est miséreux comme eux, s'il fallait que vous nourrissiez tous les jours votre famille sans avoir un euro en poche, jusqu'au où vous seriez capable d'aller pour nourrir votre famille. Voilà, c'est difficile.
On va peut-être y aller ?
Ouais.
Donc c'est à combien de temps à peu près du poste ?
Un quart d'heure.
Un quart d'heure.
Même pas 10 minutes.
Votre femme, vous l'avez déjà emmenée dans le camp Rom ou...
Oui, bien sûr. Bien sûr, elle y est allée, oui, tout à fait. Une de mes filles aussi. Alors j'ai des amis qui m'ont demandé s'ils pouvaient aller voir le camp de Rome, d'autres personnes aussi qui m'ont demandé, mais quand je sais que c'est de la pure curiosité, peut-être même mal placée, je refuse systématiquement. C'est pas un zoo le camp de Rome, voilà. On va pas voir des gens en cage, c'est pas la curiosité du coin, quoi, hein, je veux dire, il faut respecter leur personne, voilà, on va les voir, on demande l'autorisation, ce sont des gens comme tout le monde. Plus miséreux que les autres, mais des gens comme tout le monde. C'est pas du cinéma, quoi.
Donc là, on arrive sur le camp.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Ça va ? Alors le camp, comment il est constitué ? C'est un U, on va dire, d'accord ? Avec une partie stationnement des véhicules, qui est sécurisée par une ceinture de rochers. Donc les véhicules ne peuvent pas aller à côté des caravanes. Alors derrière ces véhicules-là qui sont stationnés, vous avez chaque emplacement qui est dédié à chaque famille rom, où ils peuvent déposer tout ce qu'ils ont récupéré à droite et à gauche durant leur recherche de métaux. Hein. Voilà. Donc ils déposent ça derrière les camions, ils trient, ils rechargent le camion de fer, que de fer cette fois-ci, et ils vont le vendre à des ferrailleurs. Et ensuite, tout ce qui n'est pas récupérable, le bois, le plastique, tout ça, ils reviennent, ils rechargent le camion, et ils vont le jeter à la déchetterie de Gardanne.
Il y a un monsieur qui bricole sous son camion.
Il n'y a pas un amortisseur arrière. Ils bricolent avec rien. Nous, si on essayait de bricoler avec les outils qu'ils ont eux, ça ne serait même pas la peine. Ils iraient partout. Les as de la débrouille. Donc vous sentez cette odeur d'acier là, brûlé. C'est la disqueuse qui vient de scier de la ferraille. Donc ils débitent, hein, vous voyez. Les machines à laver, tout ce qu'ils ont récupéré, ils le débitent, ils récupèrent l'acier, ils vont jeter le reste. Voilà. Vous voyez là, il y a des vieilles baignoires, des machines à laver, des vieux frigos, des vieilles étagères en fer. Alors ils lèvent le bois, ils récupèrent la ferraille. Ils obtiennent 100 euros la tonne de fer. Voilà. 100 euros la tonne de fer. Et ils travaillent, ils font ça toute la journée, toute la journée, toute la journée. Pour ceux qui arrivent à avoir un petit peu de chance, ils arrivent à 200 euros, 250 euros par mois, 300 euros maximum, je pense. Parce que pour faire constituer une tonne de fer avec des morceaux de tôle glanés à droite et à gauche, je vous garantis qu'il faut y aller. Hein. Une majorité des Roms du Puy-Z n'ont pas d'aide sociale, réellement. Donc c'est « je me débrouille ». Voilà. Donc nous, on leur apporte l'électricité, on leur apporte le chauffage la nuit, voilà, une certaine sécurité, parce que vous voyez, c'est pas des caravanes de premier choix quand même, hein, mais toutes ces caravanes sont tout à fait correctes. Hein. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de, le vent ne passe pas à travers. On leur a fourni des chauffages à benne d'huile pour leur permettre de se chauffer la nuit. Donc ils ont un certain confort qu'ils n'ont pas ailleurs. Voilà ce qui leur permet de vivre sereinement, je dirais, pour l'instant, sur le camp.
France Culture, les pieds sur terre.
Il y a deux parties dans ce camp, d'accord ? Vous avez toute cette partie-là et toute cette partie-là. Ils se fréquentent sans se fréquenter vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas les mêmes familles, pas la même façon de vivre. Donc, ils veulent pas trop se mélanger. Même les enfants, c'est difficile. Hein. Et vous remarquerez, de toute façon, c'est la première chose qui saute aux yeux, c'est quand vous arrivez ici, c'est assez clean, c'est assez propre, hein, pour ne pas dire très propre, au pied des caravanes et des mobiliums. Et ici, c'est un petit peu la pagaille. Voilà. Donc, ils sont beaucoup plus respectueux de l'hygiène, ces gens-là, eux, ici, que ceux-là. Eux font partie des gens qui peuvent être intégrés rapidement parce qu'ils ont une hygiène de vie. S'ils en avaient les moyens, ils auraient une hygiène de vie tout à fait normale. Tandis que eux, c'est beaucoup plus compliqué. Bonjour Nicolas.
Bien, bonjour.
Nicolas, c'est le papa de Christian.
Alors racontez-nous l'histoire de...
Ah ben l'histoire de Christian, elle est toute simple. Hein. C'est que un des fils a été papa depuis peu et il m'a demandé l'autorisation d'appeler son fils Christian si j'y voyais un inconvénient, bien entendu que non. Voilà, donc ça s'est fait tout naturellement. Il m'a dit si c'est un garçon, j'aimerais l'appeler Christian, comme moi, donc ça m'a fait plaisir. Il m'a d'ailleurs invité à son baptême et j'irai très volontiers.
Ça vous a ému ?
Oui, ça m'a ému parce que voilà, c'est peut-être le début d'une partie de l'intégration de ces populations. Alors mon collègue de travail hein, m'a dit « Christian, ne tombe pas dans le piège de l'affect ». Et il me dit « Demain, tu devras peut-être leur demander de partir à tous, Donc ce jour-là, ça sera difficile. J'essaye de ne pas m'y attacher, mais en face de la gentillesse que cette famille fait preuve, c'est difficile de ne pas s'y attacher.
Nicolas, viens, s'il te plaît. Ça va? Comment va le petit Christian?
Oui, il est très bien. Ça va?
Bonjour.
D'accord. Bonjour, je suis Nicolas.
Vous êtes papa?
Oui, il y a trois enfants, deux filles et un garçon. Le petit garçon qu'il était né maintenant, je mettais son nom ou Christian, parce que j'aime beaucoup le monsieur Christian.
Vous vous entendez bien avec la police?
Oui. On ne dérange pas les gens, les voisins, tout. On ne dérange pas.
Ils sont très discrets. Excessivement discrets. Ils ferraillent, ils vont à droite, à gauche, ils ferraillent, mais ils sont discrets. En ville, on les voit très rarement. Ils veulent pas qu'on parle d'eux. Ils veulent. Voilà. Ils ont leur petit confort ici, ils sont bien. Voilà. Ils veulent rester dans l'anonymat le plus strict possible pour pas qu'il y ait de polémique sur eux. Voilà.
Et votre femme, elle est ici aussi?
Oui, elle est dedans. Dans le...
On peut aller lui dire bonjour?
Oui, bien sûr. Moi.
Tu nous accompagnes, s'il
oui.
te plaît, c'est chez toi. Hein.
Oui, bien sûr.
Bonjour.
Je viens te déranger un petit peu. Hein?
Donc en fait, il y a donc une pièce principale.
La chambre.
La chambre.
Ouais. Chambre.
Est-ce qu'il leur sert de cuisine?
Oui.
Petite cuisine.
Ouais.
Mais vous voyez, c'est rangé. C'est mieux que. Voilà.
C'est mieux qu'avant parce qu'avant, on est dans la rue, on est avec les enfants. Les enfants ne sont pas à l'école, les enfants sont malades aussi. Tous les jours dans la rue, c'est pas bien, vous savez.
On tombe dans la voiture, dans le camion.
C'est pas. Maintenant, ils sont à l'école, ils sont bien, les enfants. Je m'occupe d'eux. Je fais des ménages, c'est tout. Ici, c'est très bien.
C'est bien installé. Il y a plein de couleurs, il y a des grosses fleurs, c'est très joli.
Moi, j'aime beaucoup les fleurs et tout ça.
C'est très important, tu sais.
Ça fait combien de temps que vous êtes là?
Moi, j'avais 13 ans quand je suis entré en France. Et maintenant, j'en ai 27. Moi, je grandis ici en France avec mon père, avec ma mère. Après, je retournais en Roumanie. Je vais marier avec Maria et je retournais en France.
Tu l'as épousée, quel âge elle avait?
Moi j'avais quand j'apprenais Maria à 19 ans.
Toi tu avais 19 ans?
Oui.
Et Maria?
20.
Ouais.
Comment il s'appelle?
Christian. Il porte le nom de monsieur Christian.
Voilà. Mais il s'appelle normalement avec le nom de famille Ouk Christian. Pas juste Christian, Ouk Christian.
Ouais, c'est comme ça.
On ira au baptême bientôt.
On fait le baptême
le mars.
Tu me diras, tu me diras.
C'est ça.
On va à l'église, là.
Oui.
D'accord.
Oui,
ici à Cardin.
D'accord. Ça me fera plaisir, mars. Beaucoup
c'est
plaisir.
C'est pour ça,
ouais. Allez, je reste avec vos enfants ici.
On va les laisser.
Ouais. Merci à vous, ouais.
Je vous remercie aussi.
Merci,
Nicolas.
Au revoir.
Taka, pe, e, cham, pradı, bif, adı, padan, küçü, bif.
Ouh, ça sent brûlé, je sais pas si elle fait la cuisine.
Non, non, c'est pas la cuisine, ils font brûler du bois pour le logement principal.
D'accord.
Voilà, ça c'est la limite. La limite avec l'autre partie du camp. Quand vous regardez au fond, quand vous regardez devant, c'est pas du tout la même organisation. C'est totalement différent.
Et là, il y a une cuisine à l'extérieur.
Oui, il y a des cuisines à l'extérieur. Alors, le problème, c'est qu'à une période, ils ont été envahis de rats. Bon, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais on n'arrêtait pas de leur dire de ne pas laisser des aliments à l'extérieur quand ils avaient fini de manger. Mais bon, ils continuent à le faire. Mais quand vous faites ça, vous vous amenez à la campagne, vous amenez une multitude de nuisibles, pas spécialement que des rats. Et donc, on a été envahis pendant un moment. Mais tout ça, c'est un manque d'habitude. Eux, les camps, ça dure 2 mois, 3 mois, et il faut en fabriquer un autre ailleurs. Ils sont chassés, donc ils ne sont pas habitués à cette sédentarisation. Comme tous les 3 mois, il fallait tout démanteler, et en plus, ce n'est pas eux qui le faisaient. C'est les bulles, et qu'il fallait monter dans les voitures et partir. Ils laissaient sur place les rats, les insectes et tout ce qui n'allait pas.
Là, on a une magnifique vue sur Gardanne. Et donc, on voit au loin...
Le Puy Moranda, c'est l'ancienne cage d'ascenseur de la mine, là où descendaient tous les mineurs au fond de la mine. Donc, j'ai eu l'occasion de descendre il y a pas mal d'années avec mon père dans la mine parce qu'il connaissait quelqu'un qui était contremaître. On est descendu dans la mine et j'y ai passé 5 ou 6 heures en compagnie de mon père et de ce monsieur qui était ingénieur à l'intérieur. Tous les 200 ou 300 mètres, il avait comme un chronomètre autour du cou. Et c'était un grisoumètre en fait. Et le copain, mon père, mesurait le taux de grisou pour savoir si on pouvait aller plus loin ou pas. Autre chose aussi qui m'avait marqué, on était donc à l'extraction du charbon. Alors on avait les casques, bien entendu, avec mon père et la loupiote au-dessus du casque pour éclairer devant nous. Et ils avaient prévenu mon père de rien me dire, de ne pas me prévenir, parce que toute la couche du dessus allait descendre. Évidemment, quand vous grattez et qu'il n'y a plus rien dessous, quand il y a un creux qui s'est formé, d'un coup ça pète dans tous les sens, toutes les couches supérieures descendent dans un fracas monumental, monstrueux. J'étais sur un champ de bataille et j'étais perdu parce que dans ma tête, je me suis dit, putain, tu es descendu une fois dans la mine et ça va être ton tour. Voilà. Et je croyais que ma dernière heure était arrivée. On n'y voyait plus rien du tout. C'était tout noir, rempli de poussière. Quand j'ai commencé à me relever, parce que je me suis pratiquement jeté par terre, les mains sur la tête, en priant le Seigneur d'être clément avec moi, les seules choses que j'ai vues quand je me suis redressé et que j'ai ouvert les yeux, c'était les dames blanches de tous les mineurs qui me regardaient à genoux au sol, en train de rigoler parce que, bien sûr, ils étaient habitués à ce genre de choses-là. Le soir, quand on a pris la douche, alors on prenait la douche avec les mineurs, comme tout le monde, hein, chacun il se lave le dos. Donc mon père, il me lavait le dos et moi, je lavais le dos du type qui était devant moi. Le soir, le même mineur que je revois donc dans la douche, on était en train de se sécher, il me dit « Tu fais quoi comme boulot, toi ?» J'ai dit « Ben moi, je suis policier municipal à Marseille. » Vous savez ce qu'il m'a répondu ?« Oula, c'est dangereux comme travail. » Voilà. Là, je me suis dit « Oulala, Christian, tu es vraiment dans un autre monde. Ces gens-là, c'est pas du courage qu'ils ont, c'est pire que ça. » C'est une grande leçon d'humilité qu'ils m'ont donnée ce jour-là. Qu'avait eu notre ministre de l'Intérieur, je suis absolument, mais tout à fait d'accord avec lui, dans le sens on ne pourra pas intégrer l'ensemble des 20 000 Roms de France aujourd'hui, c'est pas possible. Pour des raisons culturelles, pour des raisons sanitaires, pour des raisons sociales, pour une multitude de raisons. Ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous, ils ont des lois internes qui sont très claniques. Ça sera compliqué, ils ne vivent pas comme nous, il faut le savoir. Je pense que l'intégration des Roms se fera au-delà de la deuxième et la troisième génération. Aujourd'hui, nous sommes en train de scolariser un ensemble important d'enfants qui ne vont pas tous les jours, hein, ils n'ont pas la même assiduité que les petits Français à aller en classe. Hein. Ce sera les enfants des enfants que nous envoyons aujourd'hui à l'école, qui eux seront habitués à fréquenter les établissements scolaires et qui petit à petit prendront le pli sur leurs enfants et leurs petits-enfants derrière et qui eux iront à l'école tout à fait naturellement.
Et les relations des Gardennais et des Roms, ça se passe mieux maintenant ?
Oui, aujourd'hui ça se passe mieux, il a fallu faire face à une multitude de rumeurs, alors qu'il y a la simple rumeur bête et méchante comme le maire de Gardanne paye des caddies remplis dans les supermarchés au Rhum, donc il paraîtrait que le Rhum n'aurait qu'à eu à dire en arrivant à la caisse c'est la mairie de Gardanne qui paye et la caissière aurait ouvert la porte et l'aurait laissé sortir. Bon, enfin, vous voyez un petit peu jusqu'à où la stupidité peut aller. Après, il y a eu des rumeurs plus ou moins fantasques, comme les Roms auraient mangé les 20 canards du petit lac de Fontvenel. Moi, je veux bien. Enfin, quand les canards se sont envolés, c'était la période de la chasse. Je ne pense pas que le canard et le chasseur soient les meilleurs amis du monde. Donc, peut-être qu'ils sont allés se réfugier dans des contrées plus sereines. Voilà. Après, il y a eu aussi les Roms de Gardanne ont volé le chameau du dernier cirque qui s'est installé sur Gardanne, chameau qui paraît-il était albinos, et l'ont mangé comme un gros méchoui sur le camp de Rome. Voilà, enfin, vous voyez le genre de rumeurs. Après, il y a des rumeurs beaucoup plus, je dirais, délicates, et il faut faire attention à celles-ci. C'est comme quoi les Roms enlèveraient les enfants pour faire un trafic d'organes.
Voilà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune famille que je sache qui est allée en gendarmerie déclarer la disparition de son enfant. Il n'y a pas eu d'alerte enlèvement sur Gardanne. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des rumeurs destructrices, je dirais, envers cette population. Voilà, qu'on ne les aime pas, j'arrive à le comprendre. Qu'on ne les veuille pas à côté de chez soi, j'arrive à les comprendre. Qu'on cherche à leur nuire par ce genre de choses-là, je trouve ça très bas, très vil et ça ne me plaît pas du tout. Vous savez, ce qui me fatigue au bout de 30 ans de métier, c'est la stupidité, la bêtise humaine. J'ai de plus en plus de mal à supporter ça. Et c'est, je pense, ce qui décidera dans quelques années à essayer de prendre ma retraite parce que je n'arrive plus à supporter ça. La méchanceté par la bêtise, vous voyez, ça me fatigue. Plus que la violence et plus que la misère. Voilà.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre à Gardanne avec notre retour sur du vendredi. Les deux Christian, un reportage d'Alice Jacquelin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Christian Huc, à Nicolai, à Maria, au petit Christian, à Monsieur May, le maire de Gardanne et au site rue 89 où nous avions à l'époque trouvé cette histoire. Si vous ne savez pas encore exactement ce que vous allez faire ce week-end et particulièrement dimanche après-midi, voici l'idée que je vous suggère, vous rendre au Centre Pompidou pour le week-end spécial France Culture Centre Pompidou. Imagine la France dès demain et dimanche notamment à 15h. Ne ratez pas Les Pieds sur Scène, le live des pieds sur terre, des histoires vraies racontées sur scène par ceux qui les ont vécu. Il y a 6 histoires qui vous attendent et nous aussi on vous attend, on veut vous voir en vrai. Écoutez et regardez pour une fois des histoires vraies. Et c'est à 15h, je le précise, l'entrée est libre et la salle est grande. D'ailleurs, elle s'appelle la Grande Salle.